Gilles Philippe est professeur à l'Université de Lausanne et c'est un linguiste, c'est un stylisticien. Donc, il emploie le terme de style avec beaucoup plus de rigueur que ne le font les philosophes ou les sociologues ou moi-même, d'ailleurs. En tout cas, vous avez vu que pour Simmel ou pour Brock, bon, le style, ils sont très influencés par les travaux qui ont été faits en histoire de l'art, notamment ceux de Wolflin. C'est ça qui les marque en ce début du siècle. Et ils l'appliquent à la littérature, au fond, dans un sens assez lâche pour désigner la forme, encore que Brock, dont je parlais, tout ce livre, La mort de Virgile, c'est un monologue intérieur. Donc il y a un grand souci technique, mais c'est tout de même assez métaphorique. Alors, Gilles Philippe a écrit divers livres, dont un qui est très important, et c'est un peu à celui-là que je pensais en l'invitant à venir, intitulé « La langue littéraire, une histoire de la prose en France » de Gustave Flaubert à Claude Simon. Gros livre publié il y a quelques années avec Julien Piat et qui est au fond une histoire du style dans la période récente. Mais il y a aussi ses travaux sur la période de la première moitié du siècle et notamment sur le débat entre Proust et Albert Thibaudet sur le style de Flaubert. Donc, beaucoup de choses. Je lui avais demandé, initialement, lorsque je l'avais invité, je lui avais demandé de, s'il ne voudrait pas nous parler du style tardif de Marguerite Duras. Mais, parce que voilà un écrivain qui a, me semble-t-il, un style tardif. Mais il a voulu nous proposer un titre plus général, « Les styles meurent-ils ? Réflexion sur le vieillissement et l'usure des formes littéraires. » À vous.
Merci beaucoup, Antoine. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Mes premiers mots sont pour vous remercier chaleureusement, Antoine, pour votre invitation à prendre la parole dans le cadre de ce séminaire. C'est vrai, je n'ai pas voulu parler de Marguerite Duras. Et, c'est bien malgré moi que je prononce son nom. À la question qui donne son titre à mon exposé, « Les styles meurent-ils ?», je vais tenter de répondre donc sur la base de quelques réflexions sur l'usure et le vieillissement des formes littéraires qu'annonce cette fois le sous-titre de mon intervention. Vous parliez de Flaubert et de Thibaudet, les voici. Albert Thibaudet put dire en 1934 qu'il n'y aurait guère de sens à parler d'évolution stylistique avant Gustave Flaubert, qui le premier aurait voulu séparer la prose littéraire du français standard et proposer ce que Thibaudet appelle un français créé. Or, je cite Thibaudet, « L'expérience a montré que le français écrit, transcendé, risque de se démoder beaucoup plus vite que le français moyen. » Thibaudet reprenait l'adage « Durer, c'est changer, mais dès lors, durer, c'est d'abord s'user. » En inventant la nouveauté, Flaubert aurait inventé l'usure. C'est prêté sans doute beaucoup à un seul homme, mais l'on considérera peut-être plus largement qu'apparu dans le deuxième tiers du XIXe siècle, le terrorisme de la nouveauté rendit bien plus sensible à la possible usure des formes et poussa bien des écrivains, dont Flaubert peut-être, à se réinventer de livre en livre. Je procéderai ce soir en deux temps. Je me placerai d'abord assez brièvement sur un terrain principalement théorique, ce qui me donnera l'occasion d'évoquer la place que la question de l'usure a pu tenir dans l'historiographie des formes stylistiques. Et puis je commenterai tout simplement un texte pour me demander avec vous si les formes de ce texte étaient déjà usées au moment de sa parution. Notons d'abord que la question de l'usure, du vieillissement, voire de la fin ou de la mort des formes littéraires a été longtemps appréhendée du seul point de vue générique. Une formulation caricaturale est demeurée célèbre, selon laquelle les genres littéraires auraient, je cite Ferdinand Brunetière, une existence comparable à la vôtre ou à la mienne, avec un commencement, un milieu et une fin. Et tout récemment, Margaret Cohen faisait à raison remarquer que l'historiographie littéraire était faussée par le fait qu'elle négligeait les modèles compositionnels, ou pour ma part rédactionnels, disparus au profit de ceux qui ont perduré, les seuls pour lesquels la notion d'évolution est une pleine pertinence. Ainsi, opposons parfois le canon et l'archive. Le canon est formé des œuvres vivantes, des textes dont la mémoire collective a gardé le souvenir, parce qu'elle leur confère un statut prééminent, notamment du point de vue stylistique. L'archive, en revanche, est formée de l'ensemble des textes produits dans un genre donné à une époque donnée. Presque tous les textes de l'archive sont morts. Quelques dizaines de livres sont entrés dans le canon du roman français des 19e et 20e siècles. Quelques dizaines de milliers de livres forment l'archive du roman français des 19e et 20e siècles. Nous sommes tous supposés avoir lu Madame Bovary, nous ne sommes pas supposés avoir lu La Fanny d'Ernest Feydeau, autre roman d'adultère qui connut un an après celui de Flaubert, en 1858 donc, un succès comparable, voire supérieur, mais qui n'est plus aujourd'hui accessible que dans une remarquable mais coûteuse édition très savante. Encore, n'est-ce pas si mal, puisque la quasi-totalité des œuvres oubliées sont tout simplement, probablement, définitivement mortes. Comme Brunetière, les formalistes russes des années 1920 se sont principalement intéressés aux étapes que suivent l'évolution et le déclin des formes textuelles ou génériques, comme le récit ou le roman, ou des formes semi-génériques, comme les types de vers. Mais ils nous ont aussi fourni une première base pour l'analyse de l'usure stylistique et l'on trouve d'intéressantes propositions chez Viktor Shklovsky, mais surtout dans son sillage chez Yuri Tinianov, que je cite « l'usure », c'est lui qui souligne, « l'usure d'un élément littéraire n'implique pas, dit-il, nécessairement sa disparition, seule sa fonction change, elle devient auxiliaire ». C'est ce que Tinianov appelait, du moins dans la traduction de Tsvetan Todorov, un fait d'automatisation, c'est-à-dire de banalisation, et qu'il compare à la désémantisation de la métaphore dans la catachrèse. Ainsi pourrait-on peut-être dire avec plus de justesse qu'il y a littérarisation lorsqu'une option rédactionnelle perd peu à peu la saillance stylistique, la puissance expressive que lui conférait sa nouveauté. Une telle perte est d'autant plus sensible que, je le disais, depuis le deuxième tiers du XIXe siècle, la modernité aurait fait précisément de la nouveauté, de l'originalité, de la singularité, sa base première d'attribution de la valeur esthétique. Or, disait Tinianov, il n'est pas indifférent que tel élément soit, et c'est lui qui souligne, rebattu, usé ou qu'il ne le soit pas. Depuis les années 1880, un terme sanctionne l'usure d'une forme stylistique, c'est celui de cliché, terme qui serait en revanche largement anachronique pour parler de la situation antérieure au XIXe siècle. Sous le régime littéraire dit classique, l'usure jouait probablement un rôle moindre, ou en tout cas un rôle différent, dans l'évolution et surtout dans l'évaluation des pratiques rédactionnelles. C'est à cette question de l'usure des pratiques stylistiques littéraires que je vais m'intéresser, et ce sont ces pratiques que je vais nommer style, sans entendre du tout par là la signature singulière d'un écrivain donné. Je ne poserai donc pas l'épineuse question du vieillissement des styles individuels en tant que tel. Je vais me déplacer, me déporter par rapport à la ligne, au fil rouge que suit Antoine Compagnon. Mon horizon problématique ne sera pas de savoir pourquoi, comment un écrivain change de style, pourquoi son style vieillit éventuellement, mais pourquoi on n'écrivait pas de la même façon en 1850 et en 1900, en 1900 en 1950, pourquoi les formes de 1850 ont pu paraître vieillies, usées en 1900, etc. Encore, cet empan du demi-siècle est-il peut-être trop large, puisque si l'on en croit ce qu'écrivait Antoine Albala en 1921, je le cite, « Tous les 10 ans à peu près, l'art et le style changent et le désir du nouveau pousse les écrivains à varier leurs procédés. » Le linguiste François Rastier faisait le même constat en 2001. En gros, dit-il, un dialecte a pour échelle de durée le millénaire, un sociolecte le siècle, un style la décennie. À la durée se limite cependant sans doute la similarité. Albala insiste sur l'incompressible besoin de nouveauté et sur le début de chaque mouvement décennal. Rastier insiste sur la fin du mouvement décennal et donc, au moins implicitement, sur le vieillissement et l'usure des pratiques. Le fait est que l'on a cependant généralement envisagé le changement stylistique sur le modèle très simple auquel songe Albala. Des formes vieillissent ou disparaissent parce que de nouvelles formes apparaissent, ou alors des formes nouvelles apparaissent parce que d'autres formes ont vieilli ou ont disparu. Mais il y a derrière cette logique de la substitution du nouveau à l'ancien, du remplacement de l'ancien par le nouveau, une forme de mécanique qui ne se vérifie pas toujours, ou en tout cas pas toujours aussi simplement. Des formes disparaissent, des formes apparaissent, mais ces dernières n'occupent pas nécessairement la même place dans le système. Cela peut arriver, bien sûr, ou plus ou moins. Je vais prendre un exemple simple que je ne vais pas illustrer, mais qui est facile à entendre. Les romans entièrement au présent n'ont émergé dans la littérature de langue française qu'aux alentours de 1900. Et cette émergence est en partie due à un vieillissement du binôme narratif traditionnel, passé simple imparfait, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Mais la montée du présent ne saurait être pensée sur la seule base d'un remplacement mécanique sur une des places du système. D'un côté, parce que le récit au présent et le récit au passé simple ont cohabité et cohabitent encore aujourd'hui. D'un autre côté, parce que la montée du présent ne doit pas être considérée isolément. Bien d'autres faits stylistiques bougent en même temps, car c'est la totalité du modèle romanesque qui bascule alors. Le présent n'a donc pas purement et simplement remplacé un passé simple parvenu à son point d'usure. C'est la modification générale du protocole romanesque qui fait advenir le présent. C'est l'usure générale du protocole romanesque jusqu'alors dominant qui a entraîné, mais c'est un autre phénomène, le vieillissement du passé simple. Il est, en effet, toujours prudent de penser séparément d'une part, l'émergence, l'apparition des formes nouvelles, et d'autre part, l'usure des formes anciennes, faute de quoi, je le disais, on retomberait sur l'idée mécanique d'un pur et simple remplacement du mort par du vivant. Les formalistes russes, que j'évoquais tout à l'heure, ne semblent pas toujours avoir été assez prudents sur ce point. En 1928, Tinianov, toujours lui, est le plus célèbre pour nous, Roman Jakobson, déclarait en effet ainsi « La mise en évidence des lois immanentes à l'histoire de la littérature ou de la langue permet de caractériser chaque substitution effective de système littéraire ou linguistique, mais elle n'explique pas le rythme de l'évolution ni la direction que celle-ci choisit lorsqu'on est en présence de plusieurs voies évolutives théoriquement possibles. » Dans les années 40, René Welleck et Austin Warren étaient plus prudents. Je les cite. Il faut discerner, et ce qui m'intéresse, qui distingue bien les deux processus, il faut discerner le déclin d'une convention ancienne et l'essor d'une convention nouvelle. Pourquoi ce changement de convention s'est-il produit à un moment précis ? Il s'agit d'un problème historique insoluble en termes généraux. Certains, pour le résoudre, avancent à l'hypothèse que l'évolution littéraire a atteint un stade d'épuisement qui exige l'apparition d'un code nouveau, mais cette théorie n'explique pas pourquoi l'évolution doit prendre telle direction plutôt que telle autre. Tous quatre, en tout cas, Tinianoff et Jacobson, Wellek et Warren, tous quatre estiment qu'il faut croiser plusieurs facteurs pour comprendre pourquoi cette forme s'est imposée à ce moment donné de l'histoire littéraire. Tous quatre donnent en outre privilège aux facteurs historiques externes à la littérature pour expliquer l'apparition des nouvelles pratiques. C'est parce que le monde où les sensibilités changent que les formes changent. Mais ils s'entendent aussi sur un autre point, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est que l'usure des formes relève d'une sorte d'automaticité qui n'appelle pas le déploiement d'hypothèses complexes ou hasardeuses. Il s'agit cette fois d'un mécanisme interne à la littérature. Il serait dans la nature même des formes littéraires de s'user, de vieillir et peut-être aussi de mourir. Alors je vais suspendre ces remarques générales qui appelleraient bien des nuances, des compléments, des exemples, et je vais simplement vous lire un texte d'Émile Zola pour me demander si ce texte était déjà stylistiquement usé au moment de sa parution. Alors, on sera dans la dernière partie de la carrière de Zola, mais il est mort jeune, hein, donc ce n'est pas un style de vieillesse, c'est encore un homme d'âge tout à fait, encore un homme tout à fait fringant. Pour mesurer en tout cas la possible usure de textes déjà anciens, nous ne pouvons bien évidemment pas nous en remettre à notre seul jugement de lectrice, de lecteur. Il nous faut d'une part croiser les données présentées par ce texte avec celles qu'offrent d'autres œuvres contemporaines, et l'ordinateur nous permettra par exemple de voir si tel ou tel trait stylistique est émergent, en plein rendement, déjà usé, désuet. Il nous faut d'autre part reconstituer la perception que les lecteurs de l'époque pouvaient avoir de tel ou tel ensemble de pratiques rédactionnelles. Leurs jugements ont en effet une importance majeure pour qui veut évaluer le rendement esthétique d'une pratique stylistique à une époque donnée et donc affiner le seul témoignage des relevés informatiques. Pour illustrer cette remarque, et en m'inspirant d'un protocole suggéré par le critique allemand Hans-Hubert Jauss, nous pourrions alors nous livrer à une petite expérience. Elle va vous paraître compliquée, mais je vais la réexpliquer tout à l'heure. Nous pourrions imaginer la façon dont on percevait vers 1920 la possible désuétude ou la possible modernité stylistique d'un roman d'Émile Zola paru un quart de siècle plus tôt, vers 1895 donc, mais dont les pratiques rédactionnelles nous semblent, et surtout semblent à l'ordinateur, plutôt alignées sur le standard qui dominait un autre quart de siècle plus tôt, dans les années 1870 donc. Assurément, c'est un petit peu facile de prendre l'exemple de Zola, puisque peu d'écrivains ont été si tôt dans leur carrière, d'une part pleinement conscients que leur pratique stylistique était largement générationnelle, d'autre part et par conséquent que ces pratiques étaient appelées à s'user rapidement. Ainsi, vous le voyez à l'écran, Zola écrivait-il dès 1878 ? Souvent, j'ai été pris d'un petit frisson en songeant que certaines phrases qui me plaisent tant à écrire aujourd'hui feront certainement sourire dans 100 ans. Le pire est que ma conviction a fini par être que le jargon de notre époque, cette partie du style purement de mode et qui doit vieillir, restera comme un des plus monstrueux jargons de la langue française. Tout cela nous prend tonnerre, nous trouvons cela exquis, c'est parfait. Seulement, que diront nos petits-neveux ? Leur façon de sentir aura changé et je suis convaincu qu'ils resteront stupéfaits en face de certaines de nos œuvres. Presque tout y aura vieilli. On croirait lire cet adage que Jauss reprenait à André Gide, ce qui paraîtra bientôt le plus vieux, c'est ce qui aura d'abord paru le plus moderne. Les pratiques stylistiques auxquelles Zola songe ici, il s'agit, pour le dire vite, de celles que l'on rassemble sous l'étiquette d'écriture artiste ou d'impressionnisme littéraire, ces pratiques, au moment où il écrit ceci, donc en 78, étaient alors au sommet de leur rendement expressif. Il nous dit, tout cela nous prend tonnerre, nous trouvons tout cela exquis et parfait. Mais le romancier apparaît bien optimiste lorsqu'il considère qu'il faudra attendre 2 générations, ses petits-neveux, voire 100 ans, un siècle, pour qu'on les trouve vieillis. Une seule génération suffirait peut-être, peut-être même 10 ans, en tout cas une 20aine d'années. Alors, c'est ce que nous pourrons donc rapidement observer en parcourant un passage d'un des derniers romans d'Émile Zola, je l'ai encore, dernier par accident, hein, pas par, parce qu'on serait dans la fin de la carrière, hein. On est à la fin de la carrière, mais pas dans la fin de la vie de Zola. Un des derniers romans d'Émile Zola, je le disais, Lourdes, qui ouvre le cycle des Trois Villes, publié entre 1894 et 1898, après que l'écrivain a clos la série des Rougon-Macquart, hein, publiée entre 71 et 93. Les commentateurs s'accordent en effet à considérer que le style de Lourdes avait vieilli. Je cite, « Lourdes a le style et la facture de romans écrits 20 ans auparavant, avec en plus le sentiment gênant de l'écart qui se creuse entre l'expression romanesque et des mentalités nouvelles que Zola saisit parfaitement. » Ce jugement d'un spécialiste d'aujourd'hui reformule, avec le bénéfice du temps, le sentiment que l'on pouvait déjà avoir à la parution du livre 100 ans plus tôt. Dans la Revue Bleue, par exemple, Théodore de Vitseva avait ainsi regretté que Zola n'ait su, je le cite, « se dégager des procédés de composition et de style qui lui avaient servi pour sa série des Rougon-Macquart. Il a directement transporté dans la série nouvelle tous les procédés de l'ancienne. » Mais comment expliquer un tel sentiment d'usure? Qu'est-ce qui, dans un texte, peut sembler usé? C'est ce que nous pourrions essayer de comprendre en parcourant 2 pages, prises ou plus ou moins prises au hasard dans Lourdes. Je vais vous lire ces pages. Sur leur droite, elle n'appelle pas de situation. Vous allez rapidement comprendre ce dont il s'agit, mais c'est assez statique. Sur leur droite, maintenant, le Gave coulait dans une gorge profonde, une sorte d'entaille où il s'engouffrait comme disparu parmi des arbustes. Mais parfois, on en revoyait une coulée claire, pareil à de l'argent mat. Plus loin, après un brusque détour, on le retrouvait élargi au travers d'une plaine, s'étalant en nappe vive qui devait changer souvent de lit, car le sol de sable et de cailloux était raviné de toutes parts. Le soleil commençait à être brûlant, déjà haut dans le vaste ciel, dont le bleu limpide se fonçait d'un bord à l'autre de l'immense cirque des montagnes. Ce fut à ce détour de la route que Lourdes reparut, lointaine encore, aux yeux de Pierre et du docteur Chassaigne. Sous la splendide matinée, la ville blanchissait à l'horizon dans une poussière volante d'or et de pourpre, avec ses maisons, ses monuments de plus en plus distincts à chaque pas qui les en rapprochait. Et le docteur, sans parler, finit par montrer à son compagnon cette ville grandissante d'un geste large et triste, comme pour la prendre à témoin des histoires qu'il avait dites. C'était l'exemple s'évoquant dans l'éclatante lumière du jour. Déjà, l'on apercevait le brésillement de la grotte affaiblie à cette heure parmi les verdures, puis les travaux gigantesques s'étendaient, le quai en pierre de taille tout le long du Gave, dont on avait dû détourner le cours, le pont neuf qui reliait les nouveaux jardins au boulevard récemment ouvert, et les rampes colossales, et l'église massive du Rosaire, et la basilique élancée d'une grâce fière dominant tout. Aux alentours, on ne voyait de la ville neuve à cette distance qu'un pullulement de façades blanches, qu'un miroitement d'ardoises neuves, les grands couvents, les grands hôtels, la cité riche poussée comme par miracle de l'antique sol pauvre. Tandis que, derrière la masse rocheuse où se profilaient les murs croulants du château, apparaissaient, confuses et perdues, les toitures humbles de l'ancienne ville, un pêle-mêle de petits toits mangés par l'âge, serrés peureusement les uns contre les autres. Et comme font à cette évocation de la vie d'hier et d'aujourd'hui, sous la gloire de l'éternel soleil, le petit Gers et le grand Gers montaient, barraient l'horizon de leurs flancs nus, que les rayons obliques sabraient de jaune et de rose. Et rassurez-vous, ce sont les dernières lignes du texte, du moins de l'extrait que je vais vous lire. Le docteur Chassaigne voulut accompagner Pierre jusqu'à l'hôtel des apparitions, et là seulement il le quitta, en lui rappelant le rendez-vous qu'il lui avait donné pour le soir. Il n'était pas 11 heures encore. Pierre, que la fatigue tout d'un coup venait d'anéantir, s'efforça de manger avant de se mettre au lit, car il sentait bien que le besoin était pour beaucoup dans sa défaillance.
Il trouva heureusement une place libre à la table d'hôte, mangea en dormant, les yeux ouverts, sans savoir ce qu'on lui servait. Puis il monta et se jeta sur son lit, après avoir eu le soin de dire à la servante de le réveiller à 3 heures. Mais dès qu'il fut allongé, la fièvre où il était l'empêcha d'abord de fermer les yeux. Une paire de gants, oubliée dans la chambre voisine, lui avait rappelé M. de Guersin, parti avant le jour au Gavarni et qui devait n'être de retour que le soir. Quel heureux don que l'insouciance! Lui, maintenant, les membres morts de lassitude, l'esprit éperdu, était triste à mourir. Tout semblait tourner contre sa bonne volonté à reconquérir la foi de son enfance. L'aventure tragique du curé Père Amal venait encore d'aggraver la révolte que lui avait laissée l'histoire de Bernadette élue et martyr. La vérité qu'il était venu chercher à Lourdes au lieu de lui rendre la foi allait-elle donc aboutir à une haine plus grande de l'ignorance et de la crédulité, à cette amère certitude que l'homme est seul en ce monde avec sa raison ? Voilà, je trouve que le texte, malgré sa possible usure, tient tout à fait encore la route et qu'il est assez plaisant à lire. J'ai besoin d'un extrait assez long, puisque c'est dans la fin du texte que je vais aussi, au début et à la fin du texte, je vais trouver quelques-uns des phénomènes qui m'intéressent. Bref, je le disais tout à l'heure, vers 1900, on pouvait avoir ici le sentiment d'être face aux derniers éclats d'une prose typique de la seconde moitié du XIXe siècle, mais produite à un moment où celle-ci a atteint son point d'usure. Le texte paraît en 1894, à une époque, je le disais déjà tout à l'heure, où sont usées des formes qui étaient 20 ans plus tôt au sommet de leur rendement expressif et de leur valorisation esthétique. Le tournant des années 1900 fut en effet marqué par un rejet vigoureux des conventions usuelles de romans fortement charpentés du point de vue narratif. Nous l'avons vu, c'est par exemple l'époque où le présent commence à contester le privilège donné au binôme passé simple imparfait. Or, dès l'ouverture du passage, on reconnaît ici des habitudes romanesques typiques des années 1870. Les premiers paragraphes offrent ainsi ce que l'on appelle une description ambulatoire, c'est-à-dire un paysage présenté selon le regard de personnages qui se déplacent. On approche de Lourdes et Lourdes se précise au fur et à mesure que les pas des personnages les portent vers la ville. La chose avait pu sembler neuve du temps de Flaubert. On pense à Emma Bovary arrivant en diligence à Rouen, on pense à Frédéric Moreau remontant à la Seine. Mais le procédé qui permet une meilleure intégration de la description dans le tissu romanesque devait ensuite faire florès et se banaliser. Une collègue japonaise, Tomoko Hashimoto, m'a récemment appris d'ailleurs que le procédé que l'on appelle au cinéma un travelling subjectif, que le procédé allait bientôt faire sensation dans un film de 1897 parce que la caméra avait été fixée sur le devant d'une locomotive. Des États-Unis, la mode passa en Europe, si bien que vers 1910 déjà, le procédé n'était plus qu'un procédé. Il devait se faire plus discret, les spectateurs s'en étaient lassés, ils s'étaient usés. Comme chez Flaubert encore, le monde n'existe plus ici pour lui-même, mais en tant que phénomène apparaissant, par exemple, à un regard dépersonnalisé par le « on ». Vous y avez peut-être été sensible dans le texte. On en revoyait, on le retrouvait, on ne voyait, etc. Présente dès les premiers mots, la combinaison maintenant plus imparfaite, pour mémoire, cette combinaison est 2 fois plus fréquente dans l'éducation sentimentale en 69 qu'elle ne l'était dans Madame Bovary en 57, donc c'est vraiment un trait 70, est un autre emblème donc, de ce que l'on pourrait appeler le style 1870 et de modalité romanesque, dont Michel Raymond a bien montré dans un livre important de 1966 qu'elle paraissait déjà vieillie en 1900. De fait, l'usure du protocole rédactionnel ici mis en œuvre, sans aucun doute déjà sensible au moment où le roman fut publié, apparaît de façon encore plus nette si l'on introduit artificiellement une légère diachronie dans ma synchronie. Bref, si l'on se demande, c'était l'expérience que je vous proposais et que je vous propose à nouveau, bref, si l'on se demande comment le lectorat des années 1920 pouvait percevoir une prose parue dans les années 1890, mais qui conservait, nous dit l'ordinateur, nous disent les chiffres de nos corpus informatisés, mais qui conservait les conventions des années 1870. On notera tout d'abord et tout simplement qu'avec une moyenne de 26 mots, la phrase va à contre-courant ou résiste au mouvement qui, vers 1900, valorise la phrase brève. Bien sûr, l'analyse chiffrée est ici un peu biaisée par le fait que le texte est en partie descriptif, ce qui entraîne souvent des phrases plus longues, mais Étienne Brunet a bien montré, il y a déjà longtemps, que la phrase de Zola tendait à s'allonger à partir de 1880 selon une tendance exactement inverse d'un privilège de plus en plus vivement accordé à la brièveté. Bref, il allonge sa phrase au moment où la phrase longue commence à être usée. De manière plus générale encore, Brunet remarquait que, d'un point de vue grammatical, je le cite, « après Zola, la littérature française rebrousse chemin », ce qui n'est qu'une autre façon de signaler la rapide usure du moule phrastique zolien. Pauvre Zola qui était très préoccupé de son usure. Si l'on observe les données d'un point de vue cette fois plus qualitatif et moins quantitatif, on voit d'ailleurs que ce moule n'est pas particulièrement zolien. Il s'agit tout simplement de ce que l'on pourrait appeler par commodité le moule phrastique post-flaubertien, caractérisé par le faible recours à la subordination, par un jeu rythmique sur les éléments mobiles, les appositions, les circonstancielles, etc. Cependant, en comparaison avec Flaubert ou avec certaines pages des Rougon-Macquart, on notera que le jeu est ici stylistiquement assez peu ambitieux, ce qui donne le sentiment d'être face à la version ternie d'un modèle de belle phrase qui n'est plus perçu comme particulièrement flaubertien, en tout cas plus perçu comme particulièrement neuf, mais comme relevant simplement de la belle prose romanesque stabilisée. Le fait même que Zola ne travaille pas tellement cet aspect montre que lui-même est sensible sans doute à une forme d'usure. L'usure stylistique du texte apparaît également quand on met en regard certains observables plus précis encore avec les pratiques et les valeurs du tout début du XXe siècle en France. Je ne retiendrai ici que trois, assez brièvement, ce seront mes indices 2, 3 et 4. Le premier est le discours indirect libre dont on considérait qu'il formait la signature rédactionnelle la plus évidente de Zola. C'est même autour d'exemples empruntés aux romanciers, et notamment empruntés à Lourdes, que la catégorie fut inventée aux environs de 1900. On en trouve quelques segments à la toute fin de l'extrait, c'est pour ça que j'ai dû prendre un extrait assez long. « Quel heureux don que l'insouciance, la vérité qu'il était venu chercher à Lourdes au lieu de lui rendre la foi, allait-elle donc aboutir à une haine plus grande de l'ignorance et de la crédulité, à cette amère certitude que l'homme est seul en ce monde avec sa raison ?» L'exclamation et la question transposent fort probablement des réflexions du personnage ici désigné à la troisième personne. Mais cet emploi de l'indirect libre peut sembler bien timide en comparaison des prouesses auxquelles Zola s'était livré dans l'Assommoir en 1876-77. Et cette timidité des derniers romans de Zola peut laisser supposer que l'écrivain lui-même était conscient d'avoir porté à son point d'usure une forme qui avait essaimé dans toute la littérature de son temps et même dans toute l'Europe. On ne tarderait d'ailleurs pas à lui reprocher d'avoir ôté à la forme tout rendement expressif. Zola la schématise et en abuse, et c'est maintenant un cliché courant de syntaxe littéraire, écrivait ainsi le grand linguiste suisse Charles Bailly en 1922. En 1913, Théodore Kalepki, le premier théoricien du discours indirect libre, qui a même bâti sa théorie à partir d'exemples de Lourdes, avait déjà noté l'usure de la forme, concluant, je le cite, « qu'un usage trop fréquent affaiblit l'effet des procédés stylistiques ». En 1926, dans le premier livre consacré au style indirect libre, Marguerite Lips, à Genève, serait encore plus sévère. Zola abuse du style indirect libre. Le style indirect libre a pris chez lui une régularité quasi automatique qui engendre souvent la monotonie. Bref, un fort sentiment d'usure vers 1910-1920 d'un procédé qui, dans les années 70, était encore tout neuf, et avec un rendement expressif encore plein. Vers 1900, je le disais, l'usure d'une forme est évaluée par un terme que j'ai prononcé tout à l'heure et qu'on vient de lire sous la plume de Charles Bailly, c'est le mot de « cliché ». C'est peu dire que tout se communiait alors dans le mépris pour ce qui était considéré comme la seule faute stylistique impardonnable, le cliché. Sans doute, la combinaison maintenant plus imparfaite que j'évoquais tout à l'heure relevait-elle déjà du cliché en 1895. Lui, maintenant, vous vous souvenez du texte, lui, maintenant, les membres morts de lassitude, l'esprit est perdu, était triste à mourir. Lui, maintenant, était triste à mourir. Mais le terme de cliché s'employait alors tout particulièrement pour les épithètes. Or, plusieurs appariements, substantifs, adjectifs de l'extrait, pourraient prendre place, auraient pu prendre place dans la liste des combinaisons clichés qu'Antoine Albala donnerait bientôt, en 1899, quatre ans plus tard, dans l'art d'écrire. Dans le texte, gorge profonde, vaste ciel, bleu limpide, splendide matinée, éclatante lumière, mur croulant, éternel soleil, aventure tragique, amère certitude, etc. Les ordinateurs nous apprennent en outre que Zola recourt plus volontiers à l'adjectif que les autres romanciers de sa génération et surtout que les romanciers qui vont le suivre une demi-génération plus tard. Alors que la catégorie, la méfiance envers cette catégorie de mots ne devait cesser de monter jusqu'à atteindre un sommet, sans doute au début des années 1920. Zola conserve cependant, des années 70, un procédé de contournement de l'épithète qui consiste à remplacer la mention de l'objet par un substantif correspondant à l'une de ses qualités. Exemple tout simple, on n'a pas dans ce texte-là, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble du roman, des exemples très spectaculaires. Exemple, donc, parmi les verdures, hein, que nous avions tout à l'heure. Mais surtout, un principe qui consiste à substantiver, à transformer en nom, hein, l'élément caractérisant pour le mettre en tête d'un groupe dont le référent devient le complément. C'est difficile à expliquer, mais c'est facile à voir sur l'exemple. Sous la gloire de l'éternel soleil, avions-nous dans le texte, vaut ici pour « sous l'éternel soleil glorieux ». Et un principe proche explique le brésillement de la grotte, un pullulement de façades blanches, donc des façades blanches qui pullulaient, un miroitement d'ardoises neuves, des ardoises neuves miroitantes ou éclatantes, un pêle-mêle de petits toits, etc. Or, ce procédé favori de l'écriture impressionniste, dont Maupassant se moquait déjà en 1888, s'est tellement répandu dans la prose romanesque que Charles Bailly pouvait, en 1921, le considérer comme condamné. Au début du XXe siècle, en effet, constate Bailly, ce procédé est usé, il est mort, c'est pas aussi vrai que ça, mais peu importe, et c'est un autre procédé moins radical d'évitement de l'épithète qui s'impose, c'est ce qu'on appelle le génitif de caractérisation. Il aurait ici donné, par exemple, « sous l'éternel soleil de gloire », hein, donc je rappelle, la forme standard, c'est « sous l'éternel soleil glorieux », la forme de Zola, c'est « sous la gloire de l'éternel soleil », la forme 1910, mais qu'il n'utilise pas, ou extrêmement peu, c'est « sous l'éternel soleil de gloire ». Zola n'utilise pas cette variante moins datée qui atteint un sommet vers 1910-1920. L'aurait-il utilisé ? Sa prose aurait sans doute paru moins usée. Une seule phrase, peut-être, témoigne d'une concession à l'ère du temps. La voici, elle vous a peut-être frappé à la lecture. C'était l'exemple s'évoquant dans l'éclatante lumière du jour. Par son abstraction, par son contenu, cette phrase ne manque pas de prendre une éventuellement légère couleur symboliste. La thématique de l'évocation, le terme apparaît d'ailleurs ailleurs dans le texte, est en effet une des clés d'un mouvement littéraire qui, dès le début des années 1880, commençait à récuser le positivisme dont se réclamait, entre autres, le naturalisme de Zola. Or, évoquer n'apparaît jamais à la forme pronominale, s'évoquer, dans les 13 premiers volumes des Rougon-Macquart. Une première occurrence apparaît isolément dans l'œuvre, en 1886, mais s'évoquer, pour surgir à l'esprit, donc, s'impose surtout dans les tout derniers volumes du cycle. Lourdes, en revanche, en présente 15 occurrences, qui est beaucoup. On peut trouver toutes sortes de raisons à cette possible concession, qui relève peut-être d'une volonté de Zola de renégocier sa place dans le champ littéraire, de ne pas être atteint par une usure précoce. Mais on notera surtout qu'elle n'aide peut-être pas nécessairement à moderniser la prose du roman. Dès 1890, et surtout à partir de 1900, le retour à une forme de néoclassicisme, parfois très fort chez les anciens théoriciens ou sympathisants du symbolisme, Jean Moréas, Maurice Barrès, André Gide, se donnait comme une réaction aux étrangetés langagières de cette école. Puisque je viens de mentionner Jean Moréas, je voudrais en conclusion, ou en pré-conclusion, me souvenir de ce que celui-ci écrivait dans le manifeste qu'il avait fait paraître en septembre 1886. Comme tous les arts, la littérature évolue, évolution cyclique avec des retours strictement déterminés et qui se complique des diverses modifications apportées par la marche du temps et les bouleversements des milieux. Il serait superflu de faire observer que chaque nouvelle phase évolutive de l'art correspond exactement à la décrépitude sénile, à l'inéluctable fin de l'école immédiatement antérieure. À la décrépitude sénile, à l'inéluctable fin de l'école immédiatement antérieure. En régime esthétique, donc, celui auquel ressortit la littérature, en régime esthétique, les formes langagières finiraient donc toujours par se banaliser et par perdre tout ou partie de leur rendement expressif. Elles finiraient par vieillir, elles finiraient par s'user et peut-être même par mourir. Les évolutions ont donc toujours une part négative. Elles n'adviennent pas seulement parce que de nouvelles formes sont disponibles, mais aussi, peut-être d'abord, parce que d'autres formes ont atteint leur point d'usure, c'est-à-dire qu'elles se sont banalisées, qu'elles ont vieilli et qu'elles sont peut-être mortes. Si la formulation de Moréas rencontre étonnamment celle de Welleck et de Warren, c'est parce que toutes deux font à l'usure formelle sa place. Elles en font même la seule certitude, le seul phénomène qui soit prévisible du point de vue interne de l'histoire littéraire. Elles en font la base du désir de nouveauté, elles font de l'usure l'élément dynamisant du changement stylistique. Elles en font aussi valoir les deux limites explicatives. Si l'usure est assurée, elle ne permet pas de deviner, de prédire ce qui va advenir. La forme nouvelle n'est pas prévisible de l'intérieur du système, elle est contrainte par l'évolution générale des sensibilités. On doit donc bien penser, c'était la proposition de Welleck et Warren, on doit donc bien penser séparément, d'une part le vieillissement des formes anciennes et d'autre part l'avènement des formes nouvelles. Les secondes ne remplacent pas les premières, ce serait trop simple. Trop simple aussi l'idée selon laquelle la disparition des formes coïncide à un moment T à l'apparition de formes nouvelles. La plupart des textes ont vocation à mêler, en des proportions variables, des formes désuètes, des formes en voie d'usure, des formes stabilisées, des formes au sommet de leur rendement, des formes émergentes. S'il y a un texte dans notre canon littéraire qui montre bien toute cette gamme, c'est Madame Bovary, beaucoup plus que l'éducation sentimentale, hein, qui a beaucoup moins de formes usées. Peut-être moins de formes émergentes aussi, au stade où on prend l'histoire. Je me suis facilité la tâche avec mon texte de Zola, un auteur s'il en fut qui fut particulièrement sensible à la question de l'usure. On me pardonnera cette facilité que je me suis donnée. Les nuances exigent du temps. Le mien est largement écoulé et il ne me reste d'ailleurs plus que quelques secondes pour vous remercier très vivement de votre attention.